Ouais, bah, y a peut-être voilà. Un moment où je vais me déplacer. Je sais pas.
Mmh. Ok, eh ben, tu peux mettre ça dans ta poche.
Ouais, j'ai commencé à le faire passer par là.
Parfait. Donc, Alice m'a demandé d'intervenir sur la partie chanvre. Donc, je suis Anthony Stéphan. Je suis président de la société Pieuvre qui projette du béton de chanvre depuis 10 ans. Et à titre personnellement, ça fait 15 ans que je projette du chanvre. Je suis membre du conseil d'administration de Construire en Chanvre, formateur Construire en Chanvre. Je baigne dans le chanvre. Donc on va essayer en une demi-heure de synthétiser un peu tout ce qui est autour du chanvre, chaud chanvre. Sachant que normalement c'est des formations qui font 3 à 4 jours. Donc je pense que je vais faire une présentation rapide. Et puis derrière, si vous avez des questions, des points à approfondir, je vous laisserai poser vos questions et j'essaierai d'y répondre du mieux possible. Je vous ai ramené là-bas deux pieds de chanvre cultivés en Bretagne. Il faut savoir que la culture du chanvre, le chanvre qu'on utilise dans la construction, c'est que du chanvre français, et généralement local. Il y a 6 chanvrières en France, et essentiellement dans le nord de la France. Donc on va essayer de voir comment, de cette plante-là, on en arrive à faire des murs comme ça. Donc merci pour le lieu, parce que c'est très adapté d'avoir du béton de chanvre sur les murs pour parler du chanvre. Donc là, c'est un béton de chanvre qu'on a projeté il y a 2 mois, quelque chose comme ça. Et à l'étage, on l'a fait il y a bien 6-8 mois. Et les enduits sont dessus depuis juillet.
Mais à l'étage ?
Ouais.
Oui, je crois que c'est ça.
Donc la plante chanvre, elle est intéressante pour les agriculteurs. Parce que, bon, en plus, c'est bien le sujet aujourd'hui de l'agriculture. Les agriculteurs, ils n'ont pas d'intrants. Ils sèment la graine, ils récoltent en 150 jours la plante qui fait 3 mètres. Il n'y a pas besoin de traitement puisqu'elle pousse tellement vite que les mauvaises herbes n'ont pas le temps de pousser. C'est de la famille de l'ortie, Cannabis sativa, qui est une des deux plantes de la famille Cannabis. Donc la Cannabis indica, elle est interdite, puisqu'il y a un taux de THC qui est trop important. Là, on est sur des taux de THC à moins de 0,2% pour pouvoir faire de la culture en France. Donc, c'est des graines qui sont développées par des labos. On en a un à côté d'Angers, qui fait quasiment toutes les graines pour la France, qui s'appelle MPIT. Il faut des autorisations, il y a des contrôles. Donc c'est des autorisations préfecture et il y a des contrôles de taux de THC. Mais c'est maîtrisé par la graine. Donc dans la plante, on va tout utiliser. Au départ, on utilise surtout la fibre. La fibre, c'est ce qu'on va trouver à l'extérieur de la plante. Parce que vu que les plantes peuvent aller jusqu'à 3 mètres, on a de la fibre longue. Donc quand on va casser une tige, tout ce qui est à l'extérieur, c'est la fibre qui va servir au textile, qui servait avant tout ce qui était corderie, tout ce qui était voile de bateau. Et à l'intérieur, l'écorce qu'on va trouver à l'intérieur, c'est la chaîne vote qu'on utilise pour faire du béton de chanvre. Les graines, c'est pour l'alimentation. Aujourd'hui, on en mange, vous en trouvez dans les magasins bio. La graine de chanvre, c'est aussi pour la pêche. C'est aussi pour les oiseaux. On utilise les têtes aujourd'hui pour le CBD. C'est du cannabis, mais qui a peu de THC, mais qui a beaucoup de CBD, donc qui a été légalisé sur le marché. Mais ça part aussi en pharmacopée. Pour des traitements, la sclérose en plaques, etc. Ça part en cosmétique. On fait de l'huile aussi avec les graines pour la cosmétique. Et les poussières résiduelles, on en fait soit de la litière pour animaux, soit des granulés pour les poils à granulés. Donc tout est utilisé dans la plante. Et on a une très grosse densité dans les champs, ce qui fait qu'on a 7 fois plus de bois que sur un hectare de forêt. C'est en rotation avec le lin. Donc sur la côte, on en fait beaucoup, puisqu'il y avait les linières, donc toute la côte, ça va de l'ouest de Caen jusqu'à Fécamp, etc. On a en Normandie, c'est là où on cultive le plus de lin au monde, quasiment. Et du coup, ils l'ont mise en rotation avec le chanvre. Donc voilà un petit peu pour la plante. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une racine pivot qui aère le sol. Et du coup, ils ont fait des tests, et quand ils font du chanvre et qu'ils plantent du blé l'année d'après, ils ont des rendements qui peuvent aller jusqu'à 20% de plus. Donc les agriculteurs qui s'y mettent sont relativement contents. Et il n'y a pas beaucoup de travail et il y a de la rentabilité puisque tout est exploité. La chaîne VOT, elle était avant utilisée pour faire de la litière animale. Parce que la chaîne VOT, elle prend 400 fois sa masse en eau. C'est très hydrophile. 400 fois. Donc voilà pour la plante. Après, le déchet qui était la chaîne VOT qui servait de litière. Donc ça, beaucoup de litière dans les animaleries, la litière pour les lapins par exemple, c'est du chanvre. Et il y a un moment, on était en concurrence avec des pays du Golfe. Ils achetaient énormément de chaîne VOT pour les litières des chevaux. Donc il y a eu une petite tension il y a quelques années sur le marché. Donc l'idée, c'est plutôt de la garder chez nous et d'isoler. Donc mélanger avec de la chaux ou de la terre, on fait ce qu'on appelle un béton de chanvre. Donc là, on l'a travaillé en projection. Ce qui permet d'avoir une isolation continue et une isolation qui est moulée sur place, qui absorbe les déformations, qui est en cohésion avec la matière, qui permet de laisser passer la vapeur d'eau, de respirer. Et vous voyez, il n'y a pas de pont thermique puisque c'est une unité, c'est une coque sur mesure qu'on crée. Et par-dessus, ça peut être des enduits, mais ça peut aussi être des systèmes de plaques classiques. Et on a un confort réel qui est bien meilleur que le théorique. Alors que tous les autres isolants, en théorie, ils sont meilleurs qu'en pratique, puisque dans la mise en œuvre, c'est là où on va avoir des défauts, et notamment dans la rénovation, où on a des murs qui ne sont pas droits, où on va avoir des endroits où les gens qui posent un isolant ont tendance à compresser l'isolant. Quand on compresse un isolant, il y a moins d'air dedans et donc on n'est plus aussi bon. Quand on met deux plaques d'isolant et qu'on met 1 mm entre les deux, c'est comme si on divisait par 4 l'épaisseur de l'isolant. Donc voilà un petit peu le... Oui, voilà. Maintenant, c'est place aux questions.
Du coup, Julien, est-ce que tu pourrais nous dire la différence entre du chaux-chanvre et du terre-chanvre? Et est-ce qu'un champ de chanvre, ça sent? Est-ce que ça a une odeur particulière?
Oui, ça sent la même chose que le cannabis. Et le terre-chanvre et le chaux-chanvre. Donc, on a aujourd'hui, on travaille avec des chaux qui sont formulés exprès pour le béton de chanvre. Ce qui a permis aux industriels de baisser le taux de la quantité de chaux, de l'optimiser. Moins il y a de chaux, moins il y a de conductivité thermique, donc plus on est isolant. Avec de la terre, on va rajouter, on est obligé d'être un peu plus haut en quantité, donc thermiquement on est un peu moins bien. Et la grosse différence entre un terre-chanvre et un chaux-chanvre, c'est que Interchanvre, le chanvre il reste végétal, même s'il est imputrescible, ça se rapproche d'un torchis. Si on le mélange à de la chaux, on le minéralise. Vous voyez, la paille elle est dans une coque de chaux. Donc la chaux c'est un calcaire qu'on chauffe pour en faire une poudre et au contact de l'eau ça redevient un calcaire. Là on a minéralisé notre végétal, donc le végétal a une durée de vie qui va être supérieure. En théorie, les études nous donnent 100 ans de durée de vie parce que les études en labo, ça s'arrête à 100 ans. Puisqu'ils n'avaient jamais eu des matériaux avant, tous les autres isolants, entre 30 et 50. Donc le max c'était 50, ils ont fait deux fois le max, sauf que bah, aujourd'hui on n'a pas d'études qui nous amènent à nous dire là on a minéralisé, on a refait de la pierre avec du végétal. C'est à l'intérieur, protégé par un enduit, ça a la même durée de vie que la pierre à l'extérieur, si c'est entretenu. On n'a pas de durée de vie qu'on peut donner comme ça, sachant qu'on est sur un isolant qui ne se détériore pas dans le temps. Dans 30 ans, il aura toujours les mêmes qualités.
Et juste pour finir là-dessus, terre chambre, du coup, durée de vie.
Eh bien, durée de vie, elle va être plus courte, mais on est sur des centaines d'années. La difficulté, c'est de caractériser la terre. Donc, on a pas, quand on prend des terres de site, on n'a pas toujours les mêmes terres. C'est là où un produit industriel, il nous donne un dosage et nous certifie que ça fonctionne. La terre, c'est plus complexe à mettre en œuvre. Mais on va être sur la durée de vie d'un torchis, donc... 150, 200 ans, quoi. Oui, Marc.
Quelle est la chaux que tu emploies ?
Alors, en fonction des fournisseurs, on est sur des chaux soit de base aérienne, soit sur des chaux hydrauliques.
C'est Saint-Astier, non ?
Ici, on a mis Tradical.
Et
Saint-Astier. On a mis les deux. Tradical là-haut, et un peu de Saint-Astier ici. C'est là, on a mis bâtichanvre isole. C'est une chaux formulée spécialement. Puisqu'on a besoin de perspirance, on a besoin quand même d'une prise assez rapide parce qu'on met de l'épaisseur. Hein. On peut aller jusqu'à 40 cm d'épaisseur. Donc on a besoin qu'il y ait une prise à cœur qui soit suffisamment rapide. J'ai déjà fait 40 cm. J'ai déjà fait... Sur un projet, on avait un pied de mur qui faisait 80 cm.
Quel est l'intérêt de mettre 40
cm ? Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais après, c'est d'un point de vue architectural, voilà, c'était vraiment quelque chose, une chapelle qui partait comme ça, 12 mètres de haut, et les pieds de l'ossature bois faisaient des grosses pattes d'eff, donc on les a remplis pour mouler la forme. C'est aussi l'avantage, c'est qu'on peut sculpter facilement la matière dans le frais.
Mais c'est branché, là, dans le cas des 40 cm ?
Branché ou projeté. Les nouvelles règles pro nous amènent la possibilité de projeter, de faire du béton de chanvre jusqu'à 45 cm. Au-delà, en théorie, on n'a pas le droit.
Mais il faut faire plusieurs passes, non ?
Eh ben non, on arrive avec notre machine à faire en une seule passe. Et là, on a fait 10 cm. Et on a fait 15 là-haut.
Suite
à une erreur de ma part. J'étais parti, je sais pas pourquoi, sur 15. Et en fait, j'avais devisé 10. Oui.
Et est-ce que le fait de faire un béton chanvre comme ça sur un mur en pierre, ça permet de conserver l'aspect masse thermique du mur en pierre ou ça isole totalement de la pierre ?
Alors, on ramène une masse. On est sur, c'est l'isolant qui a la plus grosse densité. D'habitude, on prend les matériaux isolants, on considère que c'est des matériaux légers. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'inertie, on n'a pas de déphasage. Tout ce qui est laine, c'est léger. Tout ce qui est polystyrène, c'est léger. Polyuréthane, c'est léger. Et là, on est sur un isolant qui, en plus, a de la masse. Donc, on a un déphasage. Donc, ça rajoute de la masse à la masse et on ne fait plus qu'un. On n'est pas sur un mur en pierre sur un isolant rapporté. On est sur un isolant qui est collé et on ne fait plus qu'un. Donc ça favorise aussi la diffusion capillaire de l'humidité, les transferts hydriques. Et on n'a pas ce phénomène où des fois, parce que le mur n'est pas droit, on a des lames d'air peu ventilées ou très mal ventilées. Et c'est là où on a des risques de condensation et de moisissure. Quand on enlève des isolants, ils sont moisis ou c'est moisi au niveau de la pierre. Là, s'il y a un problème d'humidité, ça se voit tout de suite, puisque ça transfère au travers du mur. Comment ça s'entretient ? Ben, c'est l'enduit qui est dessus qui doit être entretenu. Alors là, on est sur une isolation par l'intérieur. Ça peut être par l'extérieur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit aux intempéries, quoi. La seule chose qui craint, c'est ce qui crée le plus de désordre sur tous les bâtis, c'est l'eau. On le voit, hein, on va en parler tout à l'heure, mais toutes les ruines, c'est l'eau. Une fois que l'eau se met dans la toiture et fait pourrir les bois, une fois que tous ces phénomènes de dégradation accélérée, c'est lié à l'eau.
Ça peut être projeté à l'extérieur. Avec
le chanvre, oui, avec un enduit ou un bardage. Ouais.
Du coup, c'était ma question, c'est comment ça réagit en cas de dégâts des eaux, dans le cas de la chaux et dans le cas de la chanvre. Enfin, dans le cas de la chaux et dans le cas de la terre. Et puis, si tu avais une fourchette de lambda aussi, ça m'intéresse.
Alors, une fourchette de lambda, ça va dépendre effectivement des fournisseurs. Donc on a un lambda à 0,067 pour les murs, 0,073, 0,076, 0,081 en fonction des fournisseurs. Le lambda, voilà, c'est la conductivité thermique propre à chaque matériau. Plus il est faible, plus...
Le R,
c'est le lambda qu'on multiplie par l'épaisseur. Et l'autre question, c'est le dégât des eaux. Pour l'avoir vécu une fois sur un sol en chanvre, parce qu'on fait des murs, on fait aussi des sols, on fait des toitures, on fait des enduits. Pour l'avoir vécu une fois sur une arrivée d'eau qui a pété sur une dalle, sur un sol en chanvre qui n'était pas encore refermé, c'est plus, je sais plus, une dizaine de mètres cubes. Voilà. L'assureur est venu voir la cliente, et il a indemnisé à hauteur de 4000 euros. Moi, je lui ai dit, tu laisses sécher, ça a séché, aucun désordre, et rien à faire, on est remonté dessus et il n'y a jamais eu de problème, c'était un truc qui a 8 ans quoi. Comment depuis la maison, est... c'est ça, voilà. Avec interchanvre, là c'est beaucoup plus compliqué, puisque la chaux elle va reprendre très peu d'eau, c'est le chanvre qui va reprendre de l'eau et qui va sécher. Si ça arrive une fois, ça va. Faut pas avoir les pieds dans l'eau pour le chanvre. Sinon, il va rouir, c'est-à-dire il va roussir et il va commencer à se dégrader. C'est ce qu'il faisait avant qu'on ait des usines de défibrage à sec. Avant, il faisait des bottes, des fagots qui plongeaient dans les mares ou dans les rivières pour séparer. Alors, c'est au niveau de la. C'est plein de pectine. Donc des sucres, et donc c'est pour laver les sucres pour plus facilement séparer la fibre, parce que la chaîne vote il s'en servait pas, donc il laissait tremper, la chaîne vote elle était trempée, elle repartait dans les rivières, donc c'était assez polluant déjà à l'époque. Donc une fois que c'était trempé, il les passait dans une, je ne sais plus comment ça s'appelle, une espèce de massicot en bois pour casser la chaîne vote, et après il y avait des gros peignes, des grosses pointes, et dessus il brossait pour enlever la chaîne vote et récupérer seulement la fibre. Donc fibre longue, 4 fois plus résistante que du coton, donc ça permettait de...
Et des vêtements,
donc c'était... Et bien aujourd'hui on en refait, notamment en Normandie. Ils sont en train de développer, ils ont développé un jean en Normandie à base de chanvre et d'autres vêtements. Très résistant. C'était les habits de travail des paysans, En opposition, on avait les habits du dimanche qui étaient en lin, qui étaient plus légers pour sortir aller à la messe. Mais les vêtements de travail, c'était du chanvre. Pour leur résistance, mais qui n'étaient pas très confortables et assez.
Un peu rêche.
Aujourd'hui, voilà, ils travaillent des vêtements qui sont beaucoup plus faciles à porter.
Mais très chaud.
Mais ouais, du coup, chaud.
Moi, je sais pas si c'est une question bête, mais j'ai une question bête.
Il n'y en a pas. Alors, le béton de chanvre, c'est chaud et chanvre. Parce qu'un béton, c'est galvaudé aujourd'hui. Un béton, on entend béton, les bétons de ciment. Mais un béton, c'est un liant avec un agrégat supérieur à 2 cm. En dessous, on appelle ça un mortier. C'est des termes techniques. Et donc, un béton, c'est parce que nos agrégats sont supérieurs à 2 cm. Mais quand on va faire du pisé, ça s'appelle aussi un géobéton, un béton de terre. Donc on peut faire des bétons de chaux, des bétons de chanvre, des bétons de terre et des bétons de ciment. Et la question de l'enduit. Alors l'enduit, on a beaucoup plus de chaux dedans. On n'est pas sur un isolant, on est sur un correcteur thermique. Et on est plus sur un aspect esthétique. Et quand on a très peu de place, quand on a des petits bâtiments ou des petites pièces, et ben on va faire 4 cm de correcteur thermique. Ça va nous donner une sensation de paroi chaude. Et ça va, avec le chanvre, réguler l'humidité dans le bâtiment. Là, on est dans des conditions où on a 95-100% d'humidité en ce moment. La maison, il n'y a pas de VMC ici. C'est le chanvre qui gère toute l'humidité. On a très peu de variations d'humidité en été comme en hiver, parce que cette humidité, elle est stockée au niveau microscopique dans la fibre de chanvre. Là où passait la sève, par capillarité, il y a des. L'humidité condense et fait des toutes petites gouttes. C'est le changement d'état entre de la vapeur d'eau. Quand on passe à l'état liquide, on dégage de la chaleur. Donc en même temps qu'il assèche la maison, il dégage de la chaleur. Pour un gramme d'eau stockée, c'est 14 watts. Donc on va tous dégager de la vapeur d'eau, de la chaleur humaine, mais en plus, on va nourrir le mur qui, lui, va ramener de la chaleur. Et l'été, c'est l'inverse. Le taux d'humidité descend, il fait sec, le mur relâche, du coup l'eau liquide redevient vapeur d'eau, donc ça fait un effet brumisateur et ça consomme de l'énergie, donc ça abaisse la température.
Et par rapport à
t'arrives à suivre ? Oui ?
Mais par rapport à un isolant classique, il faut plus épais, moins épais
C'est compliqué, mais je vais laisser à Alice et Guillaume témoigner de comment la maison s'est transformée depuis qu'ils sont là. On est pour moi entre 10 et 15 cm, c'est très bien. Si on veut suivre les règles théoriques qui s'appliquent à tous les autres matériaux, on devrait mettre, si on devait faire du neuf, donc si on prend une ruine et qu'on la refait totalement, c'est considéré comme du neuf et qu'on doit rentrer dans les normes, il faut 25 cm. Donc on le fait dans des ossatures bois. Des maisons ossatures bois, 25 cm, voilà, ça fait un mur classique. Mais en rénovation, 10-15 cm, c'est largement suffisant. Et ça travaille aussi sur l'acoustique. On le vit direct. Hein.
Quand.
C'est ça. Et là-haut, c'est très peu meublé, etc. C'est une grande pièce. Et en fait, bah, le fait qu'on soit, que le mur soit plein de petites cavités, ça absorbe, contrairement à un placo qui fait peau de tambour.
Il y avait Pierre qui avait une question, je crois. Il y a pas, j'en ai une aussi.
Oui, tout à l'heure, c'est quoi l'alternative du coup? C'est la paille et la terre paille, non?
Paille et terre paille. On a la paille, donc c'est en ballot, c'est adapté dans une ossature bois. c'est adapté dans la construction neuve. Ici, ça voudrait dire ramener des ballots de 36 cm. Ce qui n'est pas adapté. Et sur de la pierre, on aurait à cet endroit-là, la botte ne serait pas vraiment collée au contact. Il y aurait des trous, etc. Là, et puis c'est toujours aussi le risque des rongeurs. Dans la paille, si on n'est pas bien... Dans une ossature bois, ça pose pas de problème, on est bien contraint. Contre un mur en pierre, si une souris elle trouve son chemin et qu'il y a ça entre la pierre et la paille, là, on a pas de rongeurs. Là. En terre paille, tu posais les deux questions, donc j'arrive au terre paille. Terre paille, c'est bien, mais c'est de la même manière. On n'a pas de données techniques. Si on veut un lambda, c'est au pif, caractériser la terre. Donc on en revient à faire un torchis. Hein. Donc le torchis, c'est un lambda de 0,15, je crois. Enfin, c'est pas un isolant, à proprement parler. On peut faire un terre-paille, mais on va avoir d'autres contraintes. La paille, elle peut pourrir. Le chanvre, il est imputrescible. Donc, c'est faisable, ça peut marcher, il faut mettre un peu plus d'épaisseur. Le truc, c'est que d'un point de vue, moi, en tant qu'entreprise professionnelle, je peux pas l'assurer. Je ne peux pas le vendre à mes clients. Je peux les accompagner en chantier participatif pour le faire. Mais on est sur quelque chose qui est beaucoup plus hasardeux en termes de résultats. C'est de la popote. Voilà. On va avoir un résultat, mais on ne sait pas exactement lequel. Là, quand on fait un béton de chanvre, on maîtrise ce qu'on fait. Quoi.
Il fait bon, il fait bon, il fait chaud. Et du coup, au niveau de la chauffe, dans cette pièce, on a fait une chauffe hier matin. Et ce matin, j'ai fait une demi-chauffe. Mais en tout cas, même quand on était... la semaine dernière, où il y avait des grands froids, on n'a fait qu'une seule flambée par jour. Et c'était très bien.
Je me permets de compléter. Il y a le poêle de masse ici. C'est un sujet en soi, les poêles de masse. C'est assez génial. Il y a aussi une cuisinière à bois. Et pendant les jours de grand froid, deux dernières semaines, là, on a activé les deux, donc là-bas ça tournait aussi, mais on a chauffé avec les deux poêles l'ensemble du volume, c'est-à-dire 250 m2, et là-haut il faisait, je pense, 15 degrés, et ici 18, quoi.
Et puis hier soir il faisait 18 degrés là-haut.
Oui. Alors, en toiture, on fait un coffrage à l'intérieur et on projette par l'extérieur.
Est-ce que c'est compatible en dalle de sol ?
On fait des sols aussi, soit sur hérisson, soit sur des systèmes de millivitres sanitaires, pour pas être au contact justement des remontées d'humidité. Oui.
Bonjour. Bonjour. La continuité, vous l'avez peut-être dit tout à l'heure, mais est-ce que ça se projette au plafond ?
C'est pas simple. On a un projet, on nous a fait une demande pour un projet à côté de Caen de 300 m2 à projeter au plafond. Le problème, c'est que même si on a un bon collage, on est contre la gravité. On n'ira pas au-delà de 3 à 4 cm par passe. Je l'ai déjà fait sur des voûtes dans des caves. Il y avait un vieux plancher en chêne au-dessus. Il était hors de question de tout démonter et de pouvoir isoler. Donc la seule solution, c'était la cave voûtée à isoler. On a réussi à mettre 5-6 cm dans la cave.
En une seule couche ?
En une seule couche, oui.
D'accord. Ouais, donc ça veut dire que ça ne serait pas impossible, mais il faudrait y passer plusieurs fois.
Oui. Si on veut mettre de l'épaisseur, là, il va falloir passer plusieurs fois parce que on amène de la masse qui est fraîche. Ouais. Donc à un moment, ça se détache.
Et j'ai une question aussi, oui. On est dans le cadre de la RAB, l'idée c'est aussi de pouvoir projeter ça un petit peu plus loin. Imaginons, moi là pour ma petite maison, je prends mon petit hectare et je fais pousser du chanvre, c'est quoi mes dépendances pour réussir à avoir mon matériau de construction en fait que j'ai fait pousser près de chez moi à l'heure actuelle? C'est-à-dire je fais pousser.
Combien il faut que tu fasses pousser pour...
Combien il faut que je fasse pousser, mais surtout je suis dépendante de quelle machine qui se trouve où comment est-ce qu'on pourrait imaginer que ce soit un matériau que je pourrais produire? près de chez moi, quoi, pour avoir...
Il faut faire une déclaration en préfecture, avoir une autorisation.
Pour faire pousser du chanvre.
Avoir des graines certifiées à moins de 0,2% de THC. Faire la culture, faire le fauchage avec des machines, vu que ça a été interdit autour des années 30 avec la prohibition. Derrière, les Américains nous ont amené le coton, le nylon, le chanvre avait quasiment disparu. On a aussi perdu le matériel agricole qui allait avec. Donc aujourd'hui, ils ont refait les machines pour couper le chanvre, qui est très dur en fait. Parce que c'est pas comme couper du blé, hein. C'est la fibre très résistante. Donc il faut que tu puisses le faucher, mais tu peux le faire à la main si c'est petit. Après, en Normandie, Agrochanvre peut traiter ton chanvre. Donc ils sont à Barenton, dans le sud Manche. Mais ils font une chaîne-vote qui n'est pas de qualité suffisante pour passer en machine.
C'est de la litière, leur chaîne-vote, c'est
ça ? Litière ou du branchage, la mise en œuvre manuelle. Okay. Sinon, il faut que tu l'envoies... c'est autour de Paris, hein, Planète Chanvre, Gatti Chanvre, la chanvrière de l'Aube, qui est la plus grande chanvrière de France, qui vient de se doter d'un outil industriel très performant. Sinon, en Vendée, c'est une coopérative qui, c'est eux aussi qui font biofibre. Ils font biofibre et aujourd'hui, ils font aussi des bottes de paille.
Donc ça se développe quand même bien.
Ça se développe. Ça se développe, ça fait... Enfin, l'association Construire en Chanvre date de 98 et travaille justement au développement. Donc c'est beaucoup passé par la réglementation. Donc la semaine prochaine, normalement, les troisièmes versions des règles professionnelles sortent. On est à plus de 1000 entreprises formées en France. Et plusieurs milliers d'architectes aussi. Donc aujourd'hui, de plus en plus de projets sortent. Moi, je le vois en tant qu'entreprise. Sur la basse Normandie, on est 4 à faire du chanvre. Donc on se connaît tous. En haute Normandie, ils sont 3. C'est pas suffisant par rapport à la demande. J'ai quasiment une demande de chantier avec du chanvre par jour. Ça devient n'importe quoi. Donc j'essaye de répondre et de chiffrer à tout, mais c'est bien. Il y a beaucoup d'entreprises formées, mais qui passent pas à l'acte. Il y a le frein de l'achat des machines. Et puis, je pense que ça va changer, mais tous les artisans étaient tellement débordés de boulot qu'ils n'allaient pas se mettre en difficulté sur quelque chose qu'ils ne maîtrisaient pas, qui est quand même différent de leurs habitudes de travail, qui demandent surtout un travail d'équipe. Pour projeter du chanvre, il faut être au moins 4. Parce qu'il y a les machines, il y a la projection, il y a le dressage. Donc c'est vraiment un métier, c'est un sport collectif, la projection de chanvre. Donc ça s'y prête au chantier participatif. Mais
faire une pièce comme ça, par exemple, vous avez mis combien de temps ?
Là, ça, plus là-bas, on a mis la journée.
La journée ?
Oui, oui.
Pour mettre les 10-15 cm.
10 cm ici, oui. Quand on a des maisons complètes à rénover, on en a fait une à Longlet-l'Abbaye. On était 6 et on a tourné à plus de 20 mètres cubes par jour.
En termes de coût, il y a une différence. C'est plus économique,
c'est plus cher.
C'est plus cher.
C'est plus cher. Un mètre cube de chanvre, c'est déjà à l'achat 300 euros. Donc 10 mètres carrés, il y a déjà 300 euros de matière. À 300 euros 10 mètres carrés, tu achètes et tu fais poser la laine de verre.
Mais est-ce que c'est pas cher aussi parce que c'est peu développé, qu'il y a peu de machines
Il y a ça, mais il y a aussi une volonté de la filière de rémunérer correctement les agriculteurs.
Okay. Vous êtes un peu sur un marché de niche, vous pouvez permettre d'être capricieux en termes de prix de vente, c'est ce que je comprends.
Non, de toute façon, le prix de vente, c'est pas nous qui le déterminons. Okay. Les agriculteurs vendent à une chanvrière, la chanvrière doit transformer en sachet. Aujourd'hui, l'ensachage, c'est déjà un euro pour un sac quasiment. Et après, bah, il faut le palettiser, le stocker, le distribuer. Il y a des transports, tout ça, c'est des coûts en plus. On est en train de voir pour avoir du vrac, etc. Mais c'est des produits qui sont sensibles à l'eau. Donc, c'est toujours délicat. Et baisser les coûts, c'est baisser le revenu des agriculteurs. C'est baisser aussi le revenu des chanvrières qui ont besoin de se développer pour...
Imaginer une massification de cette pratique-là dans le BTP, c'est, ça sera possible qu'avec une augmentation des coûts des autres.
Mais en fait, il y a plusieurs coûts. Le coût, c'est quoi? C'est le coût que tu payes aujourd'hui, mais si tu l'amortis sur 100 ou 200 ou 300 ans, les études comparatives nous amènent à 12 ans. D'amortissement. Entre ce que tu vas économiser aussi en termes de chauffage, si tu as mis la laine de verre, tu ferais plus qu'une flambée par jour. Donc tu vas économiser à ce niveau-là. Il y a le coût, il y a le coût environnemental, il y a le coût sociétal. Et les courbes se recroisent au bout de 12 ans. C'est surtout qu'au bout de 20 ans, tu aurais été obligé de refaire. Donc tu es jeune, 20 ans, si tu es encore là, tu aurais été obligé de tout péter, tout refaire. Et là, la différence de prix, tu la sens. Là, tu sais que ton budget maison, c'est pas comme une voiture. Tu sais que dans un jour, il faudra que tu en rachètes une. Là, une fois que tu as fait l'isolation, les enduits, si tu veux changer la couleur, tu fais un badigeon, ça va te coûter 1 € du mètre carré.
Comment ça, tout changer? J'ai pas
compris. Si tu mets une isolation en laine de verre, tu sais que ta durée de vie, c'est 15, 10, 15, 20 ans si c'est bien fait.
Non, mais c'est à ça que je pensais, mais je voulais être sûr d'avoir bien
compris. Une laine de bois, ça va être une trentaine d'années. Ouais. S'il n'y a pas de rongeurs, s'il n'y a pas... Là, on part sur 200, 300 ans.
Moi, j'avais une question. Il y a 2 ans, je suis agriculteur, donc je suis assez sensible à ces notions-là d'économie locale, etc. Et pour isoler mon bas de mon sous-sol, je m'étais rapproché d'une association de chambres et on m'avait dit que ça avait fait banqueroute, ça n'existait plus. Mais, donc j'étais un peu surpris, c'est pour ça que je suis venu de voir qu'il y avait quelque chose qui se relançait. Mais
par rapport à quoi?
Par rapport à la filière chambre, on m'avait dit qu'il n'y avait plus rien. Il y avait,
à Barenton?
Non, c'était dans le Perche.
Ecopertica?
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Donc j'avais appelé la personne et il m'a dit malheureusement.
Ils ont fermé l'année dernière, ça a été repris, je sais pas trop où ça en est, mais s'il y a besoin, on peut échanger là-dessus, je peux te conseiller, il n'y a pas de problème. Oui, ils ont arrêté, les créateurs sont partis sur d'autres projets, mais bon, c'était déjà quelque chose d'un petit peu bancal. Ça a vécu et vivoté un petit peu. Ça manquait un peu de professionnalisme.
Et quand tu parles de filière, est-ce que dans le traitement du chanvre, il faut, on est sur un procédé type filage, etc. ou c'est vraiment tout autre chose?
Alors, il y a deux choses. Hein.
C'est du déchet ou c'est du...
Nous, là, c'est la chaîne VOT. C'est donc ce qui, à la base, est un déchet, puisque ce qui était valorisé, c'est la fibre. La fibre, elle part en filature, pour le textile ou les cordes. Et la chaîne VOT, soit elle part en litière, soit elle part en construction.
Okay. Donc pour t'approvisionner, une usine de taillage, filature, peut te fournir de la chaîne VOT?
Alors c'est la chanvrière, c'est l'usine qui va défibrer. C'est l'usine de défibrage qui envoie la fibre d'un côté et la chaîne VOT de l'autre. Mais quand on prend une chaux, on est obligé de prendre le chanvre qui est du même fabricant. Puisqu'il y a eu des tests de fait.
D'accord, ok.
Sur le produit, en résistance à la compression, à l'arrachement, pour voir que les deux produits, cette chanvrière et cette chaux, ça marche. Voilà, il y a eu des études de fait derrière.
Les chanvrières aujourd'hui, c'est suffisant pour vous alimenter en chanvre. Est-ce que ce qui manque, c'est plus du chanvre ou c'est plus des entreprises qui sont intéressées à faire une alimentation en chanvre?
C'est des entreprises.
C'est des entreprises.
C'est des entreprises. En production de chanvre, oui. Et largement. Largement. Et avec Qu'on soit en chanvre, on est en train de mener des études sur la chaîne Vote Grise. Parce que aujourd'hui, il y a des critères pour la chaîne Vote. Elle doit être labellisée, elle doit être blanche. Elle ne doit pas avoir commencé à rouir. Et donc là, on fait des études pour quel degré de rouissage on va pouvoir accepter la chaîne Vote. Donc ça demande des études scientifiques. Et donc là, les premiers retours sont assez favorables parce que le rouissage fait qu'on a un taux de pectine qui est inférieur. Et la pectine, donc le sucre, c'est un problème. Parce que là, on va rentrer un peu dans la chimie, mais dans une solution aqueuse, donc ou très basique avec la chaux, cette pectine est réagie donc avec l'hémicellulose, que ce soit du bois ou de la chaîne Vote, et crée des polysaccharides qui font qu'on a un collage qui n'est pas optimal entre la chaîne Vote et la chaux. C'est pour ça que les chaux ont été formulés pour avoir plus de collage. Donc si ça a commencé à rouir, il y a moins de sucre, il y a moins de réactions, donc on a un meilleur collage. Mais il ne faut pas que ça aille jusqu'à une dégradation de la fibre, enfin de la chaîne Vote.
Rouir, c'est déjà la plus ancienne du champ du lieu, quoi.
C'est, en fait, ils font rouir, surtout quand pour la fibre textile, quand ils vont l'utiliser pour le textile, ils ont besoin. Voilà, ils mouillent plus. Et les Chinois, eux, ce qu'ils font, c'est chimique. Donc, bon, nous, on n'est pas concernés, mais eux, là-bas, ils travaillent avec des produits chimiques pour décoller la fibre. Donc, on n'a pas de problème d'approvisionnement. On en a eu une année, il y a 3 ans, l'été, parce qu'ils préféraient vendre plus cher leur chaîne Vote dans les Émirats arabes pour les litières de chevaux. Donc on s'est un peu bagarré contre les chanvrières, hein, qu'on a fait tourner pendant des années quand même à valoriser leurs produits. Et puis dès qu'ils ont trouvé un marché à l'export, et ça s'est régulé aujourd'hui. Et donc on a 5 chanvrières, il y en a une 6e qui est en train de se mettre en place. C'est les chanvrières labellisées. Et après, il y a des petites chanvrières artisanales, donc ça s'appelle les chanvriers en circuit court. Et eux n'ont pas une chaîne Vote labellisée, donc n'ont pas un béton de chanvre qui est assurable. Donc ils distribuent surtout à des particuliers qui veulent faire ça eux-mêmes. Oui. Vas-y.
Sur la chaux, tu n'as pas exprimé tout à l'heure sur la question de les limites qu'il y a à la production de la chaux et où est-ce qu'elle est produite, comment elle est produite.
J'avais pas compris la question. Alors. Alors, la chaux, les chaux. Saint-Astier, c'est simple, c'est produit à Saint-Astier, en Dordogne. Et quasiment tout vient de là-bas. Tradical, les chaux viennent d'Italie ou d'Espagne. Donc, effectivement, c'est pas français. Et donc après, on est obligé, pour l'assurabilité, d'avoir des chaux normés et formulés.
Et en plus, il y a peu de revendeurs dans le coin, là. Saint-Astier, par exemple.
Oh, si, vous trouvez...
Julienne.
Julienne, voilà.
Oui, il n'y a plus.
Julienne, si... oui, à Falaise. Mais Loginature, ils vendent ça au prix de l'or. Je pense que chez Guibou, non, ils ont pas de chaux, ils sont la farge.
Ils veulent pas.
Ils sont la farge.
Enfin, il y a 2 ans, ils voulaient pas la mettre à leur gamme.
Bah peut-être Guy ou Avir. Ah, oui. Enfin, non, ils étaient radicaux. Donc, non, c'est vrai que c'est nous ça a été compliqué aussi de s'approvisionner. Après, moi, je peux fournir si.
Ah oui.
J'ai mes circuits de distribution, donc s'il y en a qui ont besoin de produits de chaux, Et des fois, j'en revends moins cher que les marchands de matériaux.
Ah oui ?
Bah oui.
C'est trop tard.
C'est trop tard pour...
pour nous.
Pour vous, bah...
Est-ce que ta question a porté aussi sur le process ? Effectivement, je crois que faire de la chaux, hein, faut les chauffer à...
Alors, la chaux, c'est quand même un cycle. Donc, c'est-à-dire, tout le... Mis à part le transport... Et l'énergie de chauffage. Et aujourd'hui, ils développent des systèmes de chauffage. Avant, ils étaient au charbon. Ils sont passés au gaz. Et maintenant, ils passent avec des noyaux d'olive, des coques de noix, etc. Tout le CO2 qui sort au moment où on brûle est recapté à la fin. Donc il n'y a pas bilan carbone, il est neutre, mis à part le chauffage et le transport. Et sachant que sur un volume de chaux, on met 3 volumes de chanvre ou de sable. Donc d'un volume, on fait 3 volumes, donc on multiplie par 3 la pierre calcaire qu'on a cramée au départ. C'est pas neutre, mais donc la température de chauffe, 900 degrés pour la chaux aérienne, 1250 degrés pour la chaux hydraulique contre 1700 à 1800 pour du ciment.
Et la chaux, du coup, ça se trouve dans des carrières.
Carrières.
Et est-ce que c'est une ressource illimitée ?
C'est des carrières de calcaire plus ou moins pures. Plus on est pur, plus on va être sur de la chaux aérienne. Moins on est pur, plus on va être sur de la chaux hydraulique ou des ciments. C'est taillé dans la roche, c'est des carrières de pierre. Hein. Donc c'est pas. C'est pas éternel. C'est de la craie par exemple, c'est un peu plus dur que de la craie, mais oui, la craie c'est un calcaire.
Vous imaginez voir s'épuiser des gisements français à une échéance plus ou moins lointaine ?
Alors, faut bien comprendre que la chaux, on en parle beaucoup en construction, mais la construction ça représente que 3% de la consommation de chaux. Le reste, c'est la sidérurgie, énormément, l'agriculture, ils mettent de la chaux vive dans les champs, mais eux, c'est des volumes considérables. C'est de la chaux vive. C'est de la chaux aérienne vive.
C'est pas de la chaux vive, c'est du carbonate de calcium.
Ouais.
C'est pas de la chaux vive. Si on mettait ça, on tuerait tout.
Oui, non, mais c'est de la chaux vive, c'est de la chaux vive qui a été en partie éteinte.
Pas comme la chaux vive.
Non. Mais elle a été en partie éteinte.
Ça dépend encore une fois, ça dépend des secteurs. Des secteurs qui sont très...
C'est fait pour... Ah bah non, il n'y a pas besoin. Non.
Donc c'est vraiment dépendant de la nature du sol.
Des tout à fait.
Des territoires comme les nôtres, massifs armoricains, plutôt acides, oui, on est chaud.
Ici, chaque année, il y a un semi-remorque de chaux qui débarque dans les champs.
Et Couché, vous avez une extraction de carbonate et d'anciens fours à chaux. Ils faisaient de la chaux et couchaient.
Toujours.
Couché.
Non, ils font du carbonate, ils font pas de la chaux.
Oui, voilà, ils font du carbonate. Ouais.
Non, mais il y a des fours à chaux aussi.
Alors, si vous regardez bien, dans tous les petits villages, il y a le four à chaux, il y a le village de la chaux dans l'Orne, il y a encore des grands fours aussi sur la côte, du côté de Pirou, par là-bas.
À Bazoche, il y a les fours à chaux.
Et effectivement, parce qu'avant, ils travaillaient en local, ils s'étaient déplacés à la charrette, donc fallait un four à chaux, comme les fours à pain étaient partout, les fours à chaux partout, les forges partout... Voilà, aujourd'hui, on a des grosses usines là, et il n'y a plus de petits fours à chaud en fonctionnement, ou très peu.
En termes de finition, est-ce qu'on peut faire des trous dans le mur ?
Oui.
On peut mettre des choses
On peut mettre des chuis.
Est-ce qu'on peut mettre, par exemple, une cuisine ?
Alors, s'il y a cuisine, soit si on a une charge trop lourde, on va dire, hein, un ballon d'eau chaude... faut mettre une petite pièce de bois dans laquelle tu vas venir visser, sinon il faut aller chercher le fond avec du scellement chimique sur la maçonnerie, quoi. Si vraiment c'est trop lourd.
Et ça c'est l'aspect final ou du coup on peut...
Là c'est l'isolant, il doit être forcément recouvert comme tout isolant, mais on pourra peut-être faire la visite là-haut, on a fait des enduits en chantier participatif là-haut, et on vous invite le 17 février à venir participer à faire les enduits chaussables ici. si vous voulez.
À vos agendas.
On peut laisser comme ça, légalement, moi j'ai pas le droit de laisser comme ça, puisque l'enduit à la chaux fait, ou l'enduit terre, ou l'enduit chaux chanvre, fait la membrane d'étanchéité à l'air. Et le problème, c'est que bah, forcément, ça s'effrite, et donc on fera le ménage tous les jours.
Et ça se calcifie pas justement avec le temps.
Bah là, ça a fait sa prise. Quand il est... quand il est frais, il est beaucoup plus foncé. Et là, quand il blanchit en faisant sa prise, donc là, il a, la chaux a fait sa prise. Donc on est à la teinte, ça veut dire que c'est sec.
Je voulais, j'ai pas trop bien compris quand tu disais que la production de chaux, c'était un cycle, le carbone. Est-ce qu'il y a la production, enfin le chaux, enfin le fait de créer la chaux, ça relâche du CO2 lui-même?
Oui.
C'est 1 kg de CO2 pour 1 kg de chaux, enfin, en tout cas c'est pour le ciment. Et après il y a la chauffe.
Donc le calcaire il est brûlé, on enlève le CO2, s'en va. Ensuite donc on a de la chaux vive, on rajoute un peu d'eau pour l'éteindre, pour avoir les sacs de chaux qu'on trouve au magasin. Le sac de chaux, on le remélange avec de l'eau et du sable, par exemple. Et quand il sèche, il carbonate, c'est-à-dire qu'il recapte le CO2 et il libère l'eau qu'il a pris. Et c'est un cycle qui fait que le bilan carbone CO2 juste pour le calcaire est neutre. Et après, il n'y a que les apports en transport, l'énergie de transport et l'énergie de cuisson.
Comme on chauffe à des températures très fortes, c'est pas négligeable.
C'est pas négligeable, mais c'est des énormes cocottes minutes, quoi. Et donc, ils chauffent le gros volume, mais du coup, ils ont travaillé sur les isolations des trucs. Donc, je pourrais vous trouver ça, le bilan carbone.
Ça veut dire que le prix de quelque part un béton de chambre est quand même assez corrélé au prix de l'électricité ou
gaz. Bah c'est plus oui c'est plus au niveau du gaz. Et après ils essayent de brûler ce que je disais des nouveaux des déchets. Et après on paye aussi. Saint-Astier vient de faire un investissement de 30 millions d'euros. Donc, faut les payer, leurs investissements. Oui.
Karine. Non, c'est vrai, dans mes questions. La couleur de l'huile, par exemple, c'est un point jaune, j'ai l'impression que c'est dû à ça. En fait, que ça chauffe, tout ça, c'est un choix. En fait, il y a une teinture dedans.
La couleur de quoi? Des enduits?
Ouais.
Alors, les enduits, on a une chaux blanche et on a un sable de Bayeux qui est jaune. Donc, on a un blanc cassé jaune. Après, on peut prendre un autre sable avec une autre teinte. Et on peut aussi rajouter de la pigmentation. Donc pigmentation à l'ocre. Donc ocre, on va souvent être sur jaune, rouge. Il y a un peu de vert. Du noir, du gris. Fin. Après, on peut pigmenter aux oxydes. Et là, on a une gamme qui est beaucoup plus large. On peut faire du bleu, du jaune poussin, tout ça. Et après... mais on le fait pas trop, c'est la pigmentation avec des pigments organiques. Mais
une peinture à l'eau, c'est pas possible.
Une peinture à l'eau sur un... sur un enduit, si, enfin...
Un badigeon de chaud.
Badigeon de chaud. Mmh.
Mmh. Il se teinte comme on veut aussi.
Voilà. Alors on va avoir le badigeon à sec qui va nous donner des couleurs pastel, et après si on veut monter dans des couleurs foncées, on est sur du badigeon à fresco. Donc dans le frais de l'enduit, on vient amener une pigmentation.
Du coup, la chaux, est-ce qu'elle est réutilisable une fois qu'elle a été utilisée dans un enduit? Par exemple, un enduit qui aurait vieilli, qu'on va casser, est-ce que la chaux est réutilisable?
Non. Enfin, pas pour refaire des enduits. Moi, je l'utilise, mes déchets que je récupère de piquetage, je les utilise chez moi. J'ai un endroit où j'ai besoin de stabiliser un terrain pour passer. Voilà. À force de couches de sable et de chaux, ça m'a durci mon terrain, ça me l'a séché. Et... tout en restant, voilà. Vous aviez un chemin à faire. Vous l'avez fait, ouais. Eh bien, la prise est faite. On va amener un peu de calcaire qui va se dissoudre tranquillement, mais c'est très marginal. Il faudra emmener une quantité assez importante. Mais en fait, ce n'est pas un déchet. Hein. Enfin, ça peut être réemployé, pas en tant que chaux. Si on concasse tout, on peut l'utiliser en tant que sable. Ça peut être notre sable. Si on veut récupérer la même couleur qu'à l'origine, en fait, on va tout casser et on va récupérer du sable, quoi. Donc ça peut être la matière première d'un autre enduit. Oui.
Je reviens sur la question de l'usage de la chute des enduits en intérieur. Là, dans les salles de bain, par exemple, dans des espaces exposés à la douche, à l'eau, tout ça, comment ça peut se gérer?
Comment ça peut se gérer? Plusieurs façons. Alors, dans la douche, non. Dans la salle de bain, oui. Après, ce qu'on va plus craindre, s'il y a une goutte d'eau, ça va sécher. Ce qu'on va plus craindre, c'est une goutte de produit, savon, etc. Comme dans une cuisine, on va craindre le gras. Puisque si on met de l'huile dessus, ça va faire une tache. Mais on peut volontairement huiler notre enduit. Pour que comme ça, s'il y a de l'huile dessus, alors ça va le foncer. Mais on peut le huiler. Sinon, nous, on fait plutôt des bétons cirés qu'on formule nous-mêmes. Alors c'est un peu moins propre, hein, c'est sur des bases ciment, mais...
Et tout ce qui est dans une rénovation, tu as aussi de la tuyauterie qui passe, de chaude, pourquoi pas, enfin alimentation de chaudière, alimenter radiateur, tu peux recouvrir ça ou pas?
Tout ce qui est PER multicouche, on le passe à l'intérieur du chanvre, tout ce qui est cuivre, ça passe à l'extérieur, ça passe en apparent.
Si tu es sur une rénovation où tout le cuivre est à ça des murs, t'as pas le choix.
Bah oui, non, faut tout reprendre. Sinon,
c'est par rapport à la chaux qu'attaque le cuivre.
C'est ça. Et puis le cuivre, c'est quand même plus soumis une soudure dans le temps. On l'a tous vécu. Ça pisse, voilà. Et il vaut mieux que ça soit accessible, quoi.
Sur l'enduit, là, on parlait de la badigeon, mais
oui.
Est-ce qu'on peut mettre du papier peint sans que ça change au niveau des échanges?
Oui, on peut mettre un papier peint, ouais. Ouais. Tout à fait. Respirant, oui, mais c'est respirant, le papier peint, la colle, c'est du méthylcellulose, c'est respirant, voilà. On va pas aller coller un truc, une moquette avec de la néoprène sur le mur.
Est-ce que pour faire 10 cm, là, est-ce qu'on peut faire un squelette un peu comme les lithos dans le torchis ou...
Il n'y a pas besoin.
Il n'y a pas besoin.
La seule chose qu'on a mis, vous voyez, c'est on a mis des arêtes galva pour redresser le mur qui était un peu déformé. Donc on les pose au laser. Et comme ça, on a refait des murs tout à fait droits. Ce mur-là, il y a plus de 10 cm de différence entre le bas et le haut. On a 20 cm en haut, 10 cm en bas. Et on l'a redressé. Voilà. Il y a 20 cm en haut, il penche par là-bas.
Mais oui, sinon on a mis aussi des porte-manteaux ici. Et du coup on a dû prévoir, anticiper et mettre des...
Voilà. On a mis des pièces de bois pour pouvoir accrocher derrière les porte-manteaux. Donc là on les voit plus, donc ça sera noyé derrière, parce que c'est pas le poids du porte-manteau, c'est quand il y a un enfant qui va se suspendre au porte-manteau. C'est pas seulement le poids de... Voilà, c'est... Chez les particuliers, par exemple, un radiateur, ceux qui veulent mettre un petit radiateur électrique, je mets pas de renfort. Si c'est des gros radiateurs en fonte, je leur dis soit on met un renfort, soit c'est sur pied. Mais dans les marchés publics, je leur dis... Radiateur, là, c'est pour une salle de loisirs. Il y aura des enfants, ils vont s'asseoir sur le radiateur. Et du coup, c'est plus le poids du radiateur, c'est le radiateur plus l'enfant. Donc tout ce qui peut être arraché, même les sèches-mains, voilà, il y en a un qui peut s'accrocher dessus. Enfin voilà, avec les enfants, je me méfie. Donc, plutôt que faire du SAV, il vaut mieux mettre un bout de bois derrière. Oui.
Si on veut le faire, c'est surtout la machine qui projette, c'est ça qui est peut-être très cher et qui fait que les gens utilisent plutôt une entreprise ou c'est plutôt savoir-faire c'est plutôt...
Le savoir-faire est pas très compliqué. Effectivement, il vaut mieux. Pour aller vite, il faut faire appel à une entreprise. Si tu as du temps, tu peux le faire toi-même. Système de banche, bétonnière, seau par seau, faut tout amener, voilà, tasser, mais pas trop. Puisque de la même manière, c'est l'air qu'il y a à l'intérieur. Donc plus on va tasser, moins il y aura d'air.
Faut vibrer, non ?
Non. Non, c'est légèrement tassé le long des manches. Mais c'est très long, fastidieux. Et de la même manière, notre chanvre, il prend 400 fois sa masse en eau. Donc dans la bétonnière, il va monter à saturation. En projection, le chanvre, il arrive à sec et notre chaux, elle arrive en pâte. Et c'est la chaux qui colle le chanvre. Du coup, il y a juste la quantité d'eau suffisante pour que le chanvre reprenne un peu d'eau, suffisante au collage et suffisante à sa prise. Là, c'est 3 semaines de séchage. Tu le fais à cette période-là, à la main. Là, c'est une journée par étage. À la main, à 5, il te faut une semaine minimum pour le faire. Et c'est 3 à 6 mois de séchage dans ces conditions-là. Il y a certaines petites projeteuses, mais c'est vraiment pour bricoler, qui se louent. Mais pas par ici. Sinon, nous, ce qu'on propose, ici, on a fait du chantier participatif, c'est un projeteur avec la machine. On a formé du monde à faire les préparations, on a à faire les protections. Alors, autour des fenêtres, on a travaillé, puisqu'on est dans les éveils, on a travaillé avec du liège pour couper les ponts thermiques parce qu'on n'avait pas assez d'épaisseur pour faire autrement. Donc tout ça, on a formé, certains ici ont contribué à tout ça pour baisser les coûts, forcément, les coûts de main d'œuvre, mais les coûts matériaux, on ne peut pas les baisser. C'est bon, c'est pas mal déjà ? Si, encore.
C'est très bien.
Pour l'apéro. Chanvre chaud, ça se positionne comment du coup ?
Les
briques, chanvre chaud.
Les blocs. C'est plus cher. Et c'est moins pertinent, de mon point de vue. Hein. Ici, on le voit bien, on a créé une coque sur mesure. Hein. Si on ramène des blocs, les blocs, ils ne sont pas en contact avec le mur. Donc derrière, entre le bloc et la maçonnerie, il faut mettre du chanvre comme ça, qui est déjà minéralisé, remplir. Il y a des petites agrafes à chaque bloc en métal. Donc thermiquement, c'est pas terrible. Et puis, tous les points de détail. Sur de la construction neuve, ok, ça se présente comme des aglos, il n'y a pas de souci. Mais tous les détails, là on voit par exemple la solive qui est toute déformée. Ça veut dire faire des coupes et puis c'est tout est en fait une isolation performante. Ça va se jouer dans le détail. C'est comme si tu mets, il fait froid, tu mets un manteau, mais s'il y a des trous partout, tu vas avoir froid. Alors que si tu as un manteau qui est bien fermé, verrouillé de partout, t'es bien. Et c'est plus cher. C'est plus cher. Enfin, nous, en tant qu'entreprise, à les acheter et à les mettre en œuvre, c'est plus cher. C'est plus long, c'est plus cher à l'achat. Donc c'est bien pour du neuf ou du pavillon. Le jour où, voilà, on veut rénover du pavillon, c'est pas ce que j'ai envie de faire, mais on peut proposer du bloc. Il y en a qui se rénovent. Il y en a qui se rasent, mais il y en a qui peuvent se rénover. Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Une question, pardon.
Oui, c'est une petite question.
Ça fait 2 ans que tu me poses des questions.
Mais là, il y a de nouvelles infos. Et alors là, quand tu as dit que 1 gramme d'eau stockée dans le chanvre émettait 14 watts de calories
oui.
et de chaleur, moi, ça m'a fait halluciner. Je ne savais pas du tout. C'est une technologie de chauffage, en fait. Est-ce qu'il n'y aurait... Alors, c'est une question bête, hein, absurde sans doute. Est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt, du coup, sur un béton de chanvre sec pour chauffer, à injecter de l'humidité dans la pièce?
Bah, l'humidité, si tu veux, elle rentre toute seule. On pourrait essayer. Je... De plus en plus, ça régule. Donc oui, si tu montes volontairement, mais t'as pas besoin, parce que regarde, si tu le fais déjà involontairement, t'invites du monde, là, on va avoir recraché... 5 litres d'eau, ça fait 6000 watts gratuits, plus la vapeur d'eau là-bas. C'est ouvert. Ah bah c'est la poignée qui est tombée.
C'est comme la poignée par terre, peut-être qu'il ne faut pas que j'y touche. Bonjour, excusez-moi, j'avais un rendez-vous médical.
Pardon. Il y a un problème avec les portes.
Quand on a fait tout ça, quel que soit l'artisan qu'on a fait quand même, on n'est plus passoire thermique et on pouvait...
On n'est plus passoire thermique? Ah bah non.
Ah ouais, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas des règles maintenant? Il faut absolument que ce soit tel type d'artisan.
Alors,
La responsabilité de...
Sur la responsabilité, eh ben là, quand nous on vient, on fait ça...
Il y a un label, je sais plus comment, on a 3 lettres.
RGE.
RDE, voilà.
Eh bien, nous sommes RGE. Nous, ici, on est dans le cadre aussi d'un dispositif d'aide de la région qui a travaillé sur l'étude thermique, les propositions et qui participe au financement des travaux. On a, je devrais pas le dire, mais on a triché, nous, sur le devis, c'est-à-dire que j'ai fait un devis comme si on faisait tout et puis on est passé en participatif. Mais ça, je ne l'ai pas écrit parce que c'est très compliqué. Il n'y aurait pas eu d'assurance, etc. Là, voilà, on a le volume de coût des matériaux, tant d'heures de notre entreprise et puis après, on réajuste. C'est vrai qu'au départ, le projet, c'était que du chanvre à l'étage. Ici, ils ne devaient pas rénover ces 2 murs-là. Et puis quand ils ont goûté au chanvre là-haut, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit on va mettre du chanvre partout. Et du coup on s'est arrangé comme ça, hein. Il y a une assurance décennale, même si nous on n'a pas tout fait, on a quand même tout supervisé, on a tout contrôlé. J'essaye de répondre présent quand il y a besoin.
Vous êtes classé en A ou en B, je sais pas.
Et bien là ils vont remonter, alors c'est vous qui savez, mais de 2 crans je pense. La maison était F ou G.
Bon, on était en G, là on va passer en B, sachant que c'est un projet BBC, bâtiment basse consommation, qui ouvre droit à des aides particulières, notamment de la région, parce que c'est un niveau de performance énergétique qui est assez élevé. Quoi. Donc ouais, on passe de G à B et on devient BBC.
Et c'était une ruine au départ?
C'était pas une ruine, mais on pourra voir l'étage, il n'y avait pas du tout d'isolation au niveau du toit. Ça a commencé à être rénové, mais pas très bien. Couche sur couche, hein, ils ont démonté le plafond de la cuisine, il y avait 4 couches. De placo, de lambris, de machin, de cache-misère.
Sur les murs, ici, on a gagné 20 cm. Il y avait du placo, de la laine de verre, du plâtre, il y avait des... quelque part, et ça pourrait faire le lien avec le sujet, quoi, des ruines où les murs sont à nu, quelque part, c'est un peu plus simple pour rénover en chaud-chambre, parce que là, on a dû démonter pas mal de choses pour revenir...
Il faut remettre à nu.
Oui, on va peut-être basculer sur le sujet des ruines.
Non, justement, si on avait dû basculer sur le sujet des ruines, je pense qu'on l'aurait fait bien avant. Mais je me suis dit, en fait, il y a tellement de choses intéressantes, et puis t'es là avec nous, du coup...
Mais je peux revenir.
Mais du coup, non, je me dis que le sujet des ruines, il mérite aussi bien d'être approfondi.
Une journée.
Du coup, on va peut-être essayer de le caser Enfin, j'ai quelques idées.
Ok.
Mais je communiquerai dessus.
C'est quand le prochain atelier? Parce que si tout le monde est intéressé, ce serait dommage de le.
Ben, du coup, je sais pas. Je me dis que. Je me dis qu'il y a un petit créneau le samedi de 14h à 16h. Mais du coup, je voulais m'assurer que certaines personnalités particulièrement pertinentes pouvaient être disponibles. Et du coup, c'est. Enfin, je vais passer quelques coups de fil et voir. Et mais oui, en fait, l'idée de parler des ruines, bah c'est bon, on a déjà des super moyens de rénovation. Enfin, on peut essayer de rêver, faire pousser du chanvre dans nos champs et d'avoir quelque chose d'ultra local là-dessus. Et sur comment récupérer les ruines, ouais, ça peut être un gros. Enfin, l'idée, c'est d'imaginer des scénarios qui seraient possibles. Enfin, j'ai plein de choses en tête, mais là, pour aujourd'hui, je trouvais que ça faisait un peu trop lourd d'aborder ce sujet-là, sachant que bah, on est quand même beaucoup. Donc, il y a aussi une Merci Group, on ne s'attendait pas à ce que vous soyez si nombreux. Donc, c'est
très. Ça fait plaisir.
Ouais.
Et on va continuer sur le chanvre, l'isolation globale, s'il y en a qui veulent continuer.
Sur les dernières questions là-dessus, et moi, je suis juste en train de faire du café et du thé. Est-ce qu'il y en a qui prendront une infusion?
Moi, je peux en dire quelque chose. Je suis à jeun, je pousse ma peau.
Ok. Ben, je fais thé, café, infusion et je vous laisse finir doucement les questions pendant tout ça.
Et puis, ben, on pourra faire un tour de la maison après.
Carrément.
Pour compléter. Donc.
Attends, il y a Guillaume, il voulait dire un truc.
Sachant que le prochain atelier est à 15h, c'est ici, c'est ça?
Oui, c'est ça. Oui.
Du coup, si on peut finir à. Avant 15h, voilà, c'est ça la date.
Ah, ben,
oui, ben.
J'ai un métier aussi. L'idée, c'est qu'à. Sur le programme, il y avait marqué 14h30, mais l'idée, c'est 14h30, on a pris le café et que... Voilà. Ok.
Oui.
Pour les sols, à part le fait qu'elle déteste les sols, est-ce qu'il y a d'autres bienfaits? S'il y a des pollues?
Oui. Oui. Elle dépollue, alors... je ne saurais plus te dire exactement... comme ça de mémoire, mais oui, c'est une plante qui aspire, voilà. Je sais plus dans quel sens ça va, mais il y a des histoires avec l'azote, etc.
Comme c'est une plante qui fait de la biomasse, elle est intéressante en matière de captation de carbone, et puis elle est aussi intéressante parce que c'est une culture assez étouffante, et en fait, elle ne nécessite pas de phyto. Par contre, elle est assez coûteuse à l'implantation. Tu l'as dit tout à l'heure, mais il faut voir la filière. Si c'est que 5% des surfaces, ou même pas, si c'est 0,5% des surfaces en Normandie et que ça se développe pas.
Aujourd'hui, ça se développe.
La région dont tu parlais de matériel, la région Normandie a mis des moyens dans une machine pour pouvoir récolter le champ.
C'est ça.
Une innovation mondiale.
La Healer Sativa 200 qui a été financée par la région Normandie. Donc pour la filière du lin qui se met aussi au chanvre en complément.
L'objectif de ça, c'est que c'est pas venu de la chanvote, c'est plutôt venu d'un marché du textile. On a un gros bassin de production de lin en France et dans le monde. La principale production de lin se trouve chez nous. Et ils sont aperçus, en allant visiter des filatures en Chine, que là-bas, ils filaient aussi le chanvre. Et donc, de cette idée-là, ils venaient de dire, pourquoi on ne fera pas du chanvre en Normandie? C'est intéressant, mais tout ça se développe.
Oui, sachant que historiquement, il y avait énormément de chanvre. En Normandie, c'est ça.
Mais c'est vrai que ça doit passer par des aides financières, entre guillemets, qui ramènent ça, au même coût que de la laine de verre, ou si on veut que ça prenne un peu plus d'ampleur.
Est-ce que c'est le bon prix, le prix de la laine de verre? C'est vraiment.
Tout le monde fait attention, surtout dans les.
C'est effectivement, après la valorisation du travail de chacun, elle doit être juste. Et oui, peut-être réussir à baisser les coûts, mais sans baisser les coûts, ni la qualité, ni ce qui est reversé à l'agriculteur. Parce que souvent, et on le voit avec l'agriculture, c'est quand ils veulent tirer les prix, c'est aux producteurs qui tirent les prix. Mmh. Mmh. Donc la filière chanvre, elle a toujours refusé ça, quoi. Parce que l'association Construire en Chanvre travaille en bonne intelligence avec Interchanvre, qui est l'interprofession du chanvre. Et dans Construire en Chanvre, on a des chanvriers qui sont au conseil d'administration et qui sont aussi dans Interchanvre. C'est interconnecté et du coup, c'est hors de question qu'on gratte sur l'agriculteur. Donc ici, béton de chanvre à ce niveau, béton de chanvre au-dessus, les rampants watts de cellulose avec une étanchéité, avec un frein vapeur hygro-réglable et en dessous, on est sur de la laine de bois entre solives. Ouais, c'est un sous-sol, mais hors sol. Traitement des tableaux en liège. Derrière, entre les menuiseries, on a mis de la laine de mouton. Donc on a utilisé une grande partie du panel des éco-matériaux. Parce que voilà, chaque matériau a sa place. Et on le met là où c'est pertinent. Et ça, avec les gens qui font des laines minérales, ils vont en mettre partout. Ou alors sur les tableaux, ils vont pas en mettre. Parce qu'il faut mettre le placo. Et il n'y a pas la place de mettre de l'isolant. Donc c'est des ponts thermiques partout. Donc voilà, si vous avez plus de questions, on peut se promener dans la maison. Vous aurez peut-être des questions.
Plus que complet.
C'est intéressant.
Ah bah c'est passionnant. Oui.
C'est concernant.
Ça va Yannick?
Le chauchant en petite
prise. Ça va pas tomber dans les vapes.
Juste la sensation thermique.
Ouais.
C'est quoi l'intérêt du chanvre dans ce cas-là? Par rapport à des gros.
Là, sur le. Ça va corriger thermiquement. Ça va faire la gestion d'humidité. Comme on a là, régulateur d'humidité, la sensation de paroi chaude, donc il va falloir moins chauffer pour avoir du confort, et ça marche très bien. Parce que la sensation de confort, c'est la moyenne de température entre la surface et la température intérieure. Si tu es dans une salle de bain toute carrelée, qui fait 20 degrés, tu vas avoir une sensation de froid. Si tu es dans une salle de bain où c'est tout en bois, il fait 18 degrés, tu vas avoir une sensation de confort. Donc on a des parois chaudes, on a des parois froides et on a des parois neutres. Et là, on a une sensation de parois chaude, comme si on avait du bois, en fait. Et donc, ça nécessite de moins chauffer pour avoir du confort.
C'est à quel endroit tu mets ça?
Eh bien, les correcteurs thermiques, c'est dans des pièces où on a peu de place. Donc, on fait un enduit chaud-chanvre. Donc, on met plus de liant, on est moins isolant. Mais on arrive sur 4 cm à avoir quelque chose qui est à la fois l'isolant, et enfin, qui n'est pas l'isolant, mais qui est un correcteur, et qui fait la déco.
Et dans une salle,
dans les camions aussi.
Dans les camions? Je pense que, tu vois, on n'a pas assez de souplesse. Même si on est souple, je pense que les torsions.
Et dans une salle de bain,
est-ce que le camion il bouge?
Est-ce qu'il faudrait quand même une VMC dans une salle de bain ou est-ce que ça peut vraiment aller faire le job?
Ça dépend de la taille de la salle de bain. Okay. Et ça dépend de la fréquence de l'utilisation. La durée de la douche, etc. Mais normalement, oui, c'est d'autres normes qui t'obligent à avoir une VMC dans ta salle de bain.
Nous, on en met une aussi.
VMC. Ouais. Et
qu'est-ce que vous mettez dans la salle de bain? Vous ne mettez pas de chanvre là?
Si, si, il y a du chanvre là-bas dans la salle de bain.
C'est une simple flux.
Non, c'est une simple flux.
Simple flux.
Hydro-régal.
réglable.
Ouais. Donc dessus, vous allez faire un espèce de...
On va faire un béton ciré.
Un béton ciré.
Ouais.
Pour que ce soit imperméable, quelque part.
C'est ça.
On pourrait faire un tas de lacte.
Ouais, mais c'est sensible, pareil. De la même manière, on a arrêté nous d'en faire chez les clients parce que produits, si c'est pas des produits totalement bio, naturels, si c'est pas du savon, tous les gels douche, machin, avec les produits chimiques, il y a réaction chimique avec la chaux. Et du coup, il y a des taches partout. Et du coup, on est obligé de revenir faire des poupouilles. Donc, non. Voilà, sinon, faut accepter, mais... Après, c'est un peu surfait. C'est très long parce qu'on passe énormément de temps. Ça se vend 300 euros du mètre carré. Alors qu'un béton ciré, on est à une centaine d'euros. Et 80, 100 euros. Et c'est plus durable, ça marche mieux. Effectivement, il y a un peu de ciment dedans, mais. Ouais, je...
Et donc, ça se fait que sur les murs extérieurs. Sur les murs intérieurs.
On pourrait, mais il y a moins d'intérêt.
Moins d'intérêt.
Je laisse Guillaume faire la visite de l'étage.
Ça, c'est la soupe à Guillaume. La mienne, elle est chaude dans la marmite.
Elle est très bonne.
Il y a du thé, café, tisane.
Dans la marmite.
Des petits biscuits, des petits gâteaux.
Ici, là, regarde.
Là ?
Ouais.
Ah, oh, mais j'avais pas vu ça. Mais c'est trop bien.
La
wow. Alors, je peux prendre un bol.
Tiens, il y a ça.
Attends,
je vais chercher une cuillère parce que c'est un peu dans
je suis perdu. Est-ce que j'ai le droit à ma soupe ? Ouais, bah attends, Tiens, regarde, je vais en prendre une comme ça. Hop. C'est bon.
Et t'as le...
Il n'y a l'air pas de 3 heures.
Et ça reste léger, le mur, quand même.
Ça reste léger, mais on est sur une densité de 280 kilomètres cubes. Là où sur une laine, on est à 50. 50, 60. Donc on est à 280. C'est 5-6 fois. 6 fois plus dense. Mais on reste léger.
Ouais, du coup, dans un camion, ça serait.
Ouais, non, c'est un peu. Oui. J'ai pas pris le temps de tout présenter ce qu'on faisait, mais oui, on est maçon bâti ancien. Ou si, où t'étais pas arrivé, peut-être.
J'ai l'impression de t'avoir vu chez des potes.
C'est qui, tes potes?
C'est un couple qui habite à côté de Vire.
De Vire.
Ils ont une vieille maison qui retape en pierre et il y a un...
À Gatmo?
Ouais, c'est ça.
Ouais, j'étais passé, mais j'ai mis du temps à faire le devis, et je crois que ils sont partis, ils vont faire autrement, je pense, qu'avec moi.
Voilà. On va voir là-haut, là, c'est ça ?
Je crois. Il y avait des graines.
Ouais.
On a des graines.
À hauteur de tes yeux, là.
Tournesol.
Ouais.
Origan. C'était ça, la sauce. J'aurais dû ramener des graines de chanvre pour... Ah, on aurait pu faire une dégustation avec de l'huile de chanvre. Et... C'est ce que je fais en formation. Je fais déguster de... Tu sais, déjà, je me promène avec les pieds de bœuf dans le camion. Quand je vais faire des formations dans le nord de la France, je me dis, si je me fais arrêter avec ça, par la douane, ils vont pas comprendre.
Très bonne ta tartine.
C'est vrai ? Oui.
Mais en fait, il y a des avantages, que ce soit pour les sols ou...
Il n'y a que des avantages, l'inconvénient, c'est le prix.
Ouais, c'est le prix, ouais. Ouais.
En fait, je l'ai mis toute la nuit dans le four, mais le four n'était pas assez chaud.
Mais sinon, oui.
Donc là, je l'ai mis, mais elle a trop de température. Enfin, c'est pas la
ouais, faut vraiment, vraiment voir ça sur le long terme. Mmh.
Oui,
ouais,
oui, c'est un investissement, mais...
C'est des maisons demain qui, potentiellement, sont plus chères.
Si Guillaume et Alice ont un projet... dans 30 ans de partir ailleurs, l'isolant, il est comme neuf.
Ouais, il n'aura pas bougé, ouais.
La maison qui est classée B, toutes les autres maisons, tu refais un audit dans 20 ans, elle est repassée en D. Oui. Là, elle restera où elle est, quoi.
Est-ce qu'il y a des maisons en A ?
Tiens,
peut-être
que
oui.
D'ailleurs. Les
grottes.
Les maisons passives. Les maisons, si tu mets des panneaux solaires, là, tu me passes en train.
Okay.
Parce que tu produis de...
Ouais, ouais, ouais.